De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française.
Les incidents avec les chiens se multipliaient. Un autre jour, par exemple, on tomba sur un corps de pachyderme qui reposait là depuis va savoir quand.
Cette autre femme au visage doux, enfantin, aux yeux humides et profonds, au front haut et pur, cette femme vivante, dois-je la laisser dans son monde ?
Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps.
Île où l'on ne descendra jamais, je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
C'est Gulliver et aujourd'hui nous avons un invité, c'est toujours Gulliver, le magazine de l'actualité des livres, mais aujourd'hui notre invité c'est un photographe à l'occasion d'un livre qui est paru l'année dernière à l'occasion d'une exposition, nous allons y revenir. Donc nous consacrerons notre gros plan à Roland Laboye, pour ne pas le nommer. Ensuite nous élargirons notre angle, c'est le moment d'en parler, avec la présentation d'une revue qui s'appelle « Six mois ». Sur lequel il est question beaucoup aussi de photographie. Et puis nous terminerons notre émission, comme à l'habitude, avec une revue de presse et quelques annonces.
Gros plan.
Bonjour Roland Laboye.
Oui, bonjour.
Alors Roland Laboye, vous êtes né à Castres, dans un département voisin de celui de l'Hérault. Votre père était peintre, vous avez eu votre premier appareil à 11 ans. Vous voyez que je suis bien informé. Vous êtes un autodidacte de la photographie, vous êtes devenu professionnel en 1969. C'est vers cette date que vous avez été admis au Cercle des 12, où là vous avez rencontré Jean Dieuzède, un des papes de la photographie contemporaine, qui a créé et dirigé longtemps le Château d'Eau, la galerie du Château d'Eau à Toulouse. En 1977, vous obtenez le prix Nicéphore Niépce, une distinction tout à fait remarquable. Et en 1984, Georges Frêche vous choisit pour devenir le directeur de Photovision, qui était la suite de rencontres photographiques et qui donc allait donner lieu à des expositions régulières à Montpellier que vous avez organisées au cours d'une période d'une vingtaine d'années à peu près.
Oui, oui.
Et vous avez créé notamment l'espace photographique tel qu'il est encore aujourd'hui au pavillon, pavillon populaire.
Oui.
Vous avez terminé cette période de 20 ans avec, on va dire, un petit couac, puisque alors que la Fondation Auer, Fondation photographique suisse, devait venir s'installer à Montpellier, ça ne s'est pas fait. Mais bon, passons, on laissera ça dans les poubelles de l'histoire comme un événement qu'on aurait pu éviter, mais c'est ainsi.
Mais un gros morceau, hein.
Oui, et donc en 2009, vous quittez ce poste convoité par beaucoup d'autres. Je voulais simplement signaler, vous concernant, qu'au cours de ces 20 années passées à Montpellier, vous n'avez jamais organisé d'exposition vous concernant. Là où beaucoup d'autres auraient profité de l'occasion, eh bien vous avez mis un point déontologique, on va dire,
à ne pas vous promouvoir
vous-même.
Alors je vais vous dire l'inverse. J'ai fait des expositions à Montpellier, mais je n'ai jamais voulu monter une exposition moi-même. C'est Georges Frêche qui m'a imposé à un moment donné. Il a dit, Laboye, vous montrez votre travail dans différents pays, etc. Et trucs. Je veux que vous le montriez sur Montpellier. Et là, j'ai fait une fois une exposition.
Voilà, une seule fois.
Voilà.
Voilà. Et puis, vous avez consacré à la ville un livre qui s'appelle Montpellier m'amuse.
Oui.
Qui est, je ne sais pas s'il est encore disponible. Il me paraît...
Moi, j'en ai quelques heures.
Ah
oui,
bon,
mais sinon, c'est des collecteurs.
Il doit être épuisé. Voilà.
Ouais, ouais.
Et puis, je voulais ajouter que, ben, effectivement, vous avez beaucoup voyagé à l'étranger. J'ai compté grosso modo entre 40 et 50 expositions à l'étranger, toujours dans des villes d'ailleurs. Je pense que c'est une des caractéristiques de votre œuvre. Et donc, on peut dire que vous êtes un photographe, nul n'étant prophète en son pays. Vous l'avez été beaucoup ailleurs, mais pas vraiment à Montpellier, puisqu'on ne vous a pas remercié de tout ce que vous nous avez apporté en matière de photographie.
Je pense que la reconnaissance est liée, pour la bonne raison que c'est toujours prégnant dans le territoire montpelliérain et au-delà. Montpellier a une renommée par rapport à la photographie qui est issue, bien entendu, de ces 20 ans de volonté de la ville, puisque la ville avait joué la carte culturelle. Donc c'était la danse, c'était le théâtre, c'était les opéras, etc. Et la photographie en faisait partie. Donc on était une des rares villes, justement, la photographie était vraiment défendue par les élus avec une volonté d'une présence. Et aujourd'hui, on bénéficie de ça, bien entendu. Or, beaucoup de villes se mettent maintenant à la photographie. Or, nous, on a un passé quand même qui est dû aussi au fait qu'il y avait une pratique importante à Montpellier, qui était issue de photoclubs qui appartenaient soit à l'équipement, soit au PTT, soit etc. Qui était une espèce de vivier de gens qui pratiquaient la photographie. D'où la volonté de la ville à l'époque de fédérer ça, de le professionnaliser, de nommer un directeur artistique. C'est pour ça que je suis arrivé en 1984, au moment où je finissais une bourse d'État où je résidais à Villeneuve-les-Avignon.
Au CIRCA. Oui. Est-ce que le fait d'avoir eu cette activité d'organisateur, on va dire, de médiateur, n'a pas un peu nui à votre propre carrière de photographe ?
De toute façon, on ne peut pas parler de carrière. Carrière, ça voudrait dire que...
Ou à votre œuvre.
Voilà, plutôt. Au contraire, je me suis nourri de ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où je suis arrivé sur Montpellier, la notoriété que je pouvais avoir à travers le Prix Niépce, à travers le fait que je suis chevalier des arts et lettres, à travers le fait que j'ai eu différentes bourses d'État, j'avais des commandes. Donc, j'étais connu dans les milieux photographiques, ce qui fait que j'avais une double casquette, bien entendu. Cette double casquette, elle servait à la ville de Montpellier dans le sens où, lorsque j'étais invité par une institution en tant que créateur pour monter une exposition, je rencontrais d'autres créateurs au cours de cette action. Mmh. Et je rapportais ces choses-là sur Montpellier. Et l'inverse aussi existait. Lorsque je partais en mission spécifiquement pour Montpellier, je pouvais élaborer des projets pour la ville de Montpellier en montant des expositions, mais aussi avoir des contacts qui me permettaient aussi de faire autre chose, du fait que si j'ai voyagé dans différents pays, j'ai ramené aussi des images de ces différents pays.
Alors nous allons venir précisément à cette œuvre dont je parlais à l'instant. Vous nous rendez visite à l'occasion d'un livre dont le titre est très significatif de votre photographie, « Le sirop de la rue ». C'est donc un livre et en même temps le témoignage d'une exposition qui a eu lieu en 2013, dans le cadre de Marseille, capitale culturelle européenne. Pourquoi il y a eu tout à coup cette envie d'exposition ?
Parce que... Une personne a eu envie de montrer mon travail. C'est une personne qui habite à Aix-en-Provence. C'est un photographe qui connaît mon œuvre et qui a proposé justement de monter cette exposition. On s'aperçoit que généralement, les choses qui sont faites avec les institutions, on utilise toujours un petit peu les mêmes filons ou les mêmes choses. Mmh. Or là, c'est quelqu'un qui est hors du sérail des organisateurs d'expositions, qui a proposé à la ville d'Aix, dans le cadre de Marseille Ville Culturelle, de monter cette exposition dans un lieu prestigieux, puisque j'ai découvert le musée de la tapisserie, qui est dans l'ancien évêché de Aix-en-Provence. Et là, j'ai découvert la cour du festival de Aix. Quand j'ai vu la dimension de cette cour, j'ai compris pourquoi le moindre fauteuil valait une fortune pour assister au spectacle.
Oui, elle n'est pas immense. Oui. Oui. Alors, c'est un petit éditeur, mais grand par l'ambition, alors, en tout cas.
Justement, oui.
Le bec en l'air, donc, qui a publié ce très beau, livre, on peut dire un petit peu format à l'italienne, puisqu'il est... Mais enfin, il est carré.
Il donc, est presque carré.
Voilà. Le choix du format, est-ce que ça favorise la présentation des photographies, le choix d'un format carré ?
Pour la bonne raison que les photographies elles sont ou hauteur ou largeur. Alors si vous prenez un format à l'italienne, les photographies en hauteur sont pénalisées, au détriment des photographies à largeur, c'est-à-dire à l'italienne qui prennent de la place. Donc c'est le compromis idéal justement pour pouvoir jouer hauteur-largeur dans un format carré.
Voilà. Comment vous avez fait le choix ? Parce que je suppose que ça doit être...
Je ne suis pas du tout intervenu. Voilà. Pour une fois, moi j'ai tellement organisé des expositions, je peux dire que dans la mesure où j'étais directeur artistique à Montpellier Photovision, j'ai organisé 250 expositions, soit sur Montpellier, soit sur l'étranger, etc. Et trucs. Pour la bonne raison que certaines expositions étaient aussi exportées.
Bien sûr. Itinérantes.
Ce qui fait que pour une fois, moi, j'ai rien fait. J'ai donné la,
donc c'est
j'ai donné la
production extérieur, hein.
Et c'est quelqu'un qui a fait le choix, etc., qui a fait la distribution, qui a fait le rythme et la composition.
Alors, il y a une très belle préface d'Agathe Gaillard, qui est votre
galeriste,
qui est la galerie qui vous promeut. Et puis, à la fin, il y a quelques témoignages particulièrement flatteurs, on va dire, de très grands photographes, dont Marc Riboud, Willy Ronis, d'écrivains, Didier Daninx, qui relèvent en vous ce que tout œil qui vous connaît a relevé, c'est-à-dire cette espèce de bienveillance, de malice, d'humour qui vous caractérise. Quelle que soit la ville, quelle que soit la situation, que ce soit dans une situation de misère ou d'opulence, vous arrivez toujours à détecter le petit truc qui fait que humain trop humain, quoi, presque.
Oui, l'humanité est formidable, mais bon, nous, en tant que photographes de rue, on n'est pas là pour dénoncer des choses dans le côté misérabiliste, etc. et trucs. Chaque homme doit être respecté, peu importe la situation qu'ils ont. Moi, je suis toujours un peu malheureux lorsqu'on montre des indigents dans leur indigence. Ce n'est pas le but de la photographie. Mais des fois, il y a des situations qui sont poétiques, qui sont incongrues, qui peuvent être prises en photographie. Bon, moi, j'ai une photographie qui est extraordinaire d'un gars qui fait la manche. Dieu sait que l'on voit beaucoup, souvent, dans la rue, des gens qui font la manche, qui demandent la pièce. Pourquoi faire une photographie de cette situation? Ben non, ça ne marche pas. C'est du premier degré, ça ne va pas très loin. Or, ça n'empêche pas que moi, lorsque je suis dans la rue, j'observe bien entendu ce qui se passe dans la rue. Je vois l'attitude des personnes, l'attitude, le comportement du gars qui demande les pièces, etc. Et trucs. Puis en plus, il y a le son, etc. Et trucs. Mais des fois, il y a des choses extraordinaires. Une fois, sur la place de la Comédie, j'ai vu un gars. Les gens ne faisaient pas trop attention à lui, parce qu'on s'aperçoit que les gens, ils passent dans la rue, mais ils ne voient pas tout à fait. Et là, le gars, il avait un chien qui était appuyé sur sa jambe, puisqu'il était accroupi. Et ce chien, il était découpé dans un morceau de carton. Il avait la forme d'un chien. Et il y avait la sibylle devant. C'était très humoristique. Le gars, il avait ce chien pour faire la manche, mais il n'avait pas besoin de lui acheter des boîtes pour lui donner à manger, etc. Donc il n'avait pas de truc. Je me suis approché de ce gars pour discuter avec lui. C'était un Anglais. Il faisait la manche comme ça. C'était génial.
Humour anglais. Donc.
Si on veut. Mais c'était formidable de rencontrer ça dans la rue. Mais il y a des situations comme ça qui existent tout le temps, qui se répètent, qui se produisent. Elles sont éphémères. Elles sont fugaces. Bon, il faut aller les débusquer, bien entendu. Et puis il y a le temps aussi. Le temps, c'est à la fois un allié, mais aussi un ennemi. Parce que le temps, ça passe très vite, ces choses-là. Mais quand on a la possibilité de les saisir, c'est formidable.
Est-ce qu'en venant ici au studio ce matin, vous avez pris votre appareil?
Alors, j'ai maintenant un appareil à la poche. Je ne suis pas trop venu avec le... parce que le rendez-vous était précipité. Donc, avec la circulation, je suis venu en moto. Mais des fois, lorsque je suis en moto sur un lieu, je mets l'appareil photo en bandoulière.
Oui. Hein, voilà. Vous ne le quittez jamais?
Et
presque
non,
pas.
Et non, le but, c'est que quand je ne l'ai pas, il y a quelque chose de formidable qui se passe. Voilà.
Alors, il y a un photographe dont vous êtes l'ami et en même temps dont vous avez organisé une merveilleuse exposition dont on se souvient encore, c'est Marc Riboud.
Oui.
Eh bien, je vous propose d'écouter Marc Riboud.
Avec plaisir.
La photographie, c'est de la géométrie. Et si j'ai réussi un petit peu dans la prise de vue, c'est de savoir cadrer pour que la géométrie de l'image soit réussie. Vous voyez, ce qui compte, c'est dans cette photo, c'est un grand trait là, un autre trait là, un autre trait là. Et puis c'est les rimes qu'on cherche. Là, il y a une rime magnifique. C'est ces deux triangles. qui compte, par exemple, le béaba, c'est l'ombre et la lumière. Eh bien, là, en me baissant un peu, j'ai fait que tout le profil se passait devant la lumière, et sur un fond noir. Mais si j'avais baissé, pas baissé, le truc, tout change. Gongli était très belle. Et moi, je pensais surtout, vous savez, quand on est photographe, ce qui compte, c'est la photographie qui va ressortir, qui va en sortir. Je trouvais le contact pas très bon parce que elle n'était pas heureuse, parce qu'elle était très amoureuse d'un metteur en scène. Et depuis un mois, deux mois, enfin, elle ne me l'a pas dit, mais ça avait rompu. Alors ça la mettait dans un état différent et pas naturel. Vous voyez ce chiffre, ça veut dire beauté. Par hasard, c'était dans un mur, c'était un vieux truc dans un mur.
Voilà, un double clin d'œil d'une part à Marc Ribou,
merci, oui.
Et puis à la Grèce, parce que vous êtes beaucoup déplacé en Grèce, notamment en Thessalonique, Athènes.
Ouais, oui.
C'est un pays que vous connaissez bien. Ça doit vous attrister.
Je ne connais pas le pays. Je ne le connais pas. Je connais qu'un peu Athènes.
Les villes.
Voilà. C'est ça. C'est surtout les villes.
Alors, on va en parler des villes, mais avant de parler des villes, Marc Ribou dit la photographie, c'est de la géométrie. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah, totalement. Tout est géométrie. D'ailleurs, quand vous allez dans un musée, vous voyez le guide avec les visiteurs qui suivent le guide. Et le guide est en train d'expliquer la composition qu'il y a dans le tableau. Le point fort, la diagonale, la répartition, les trois tiers, etc. Et trucs. Ben oui, c'est ça. On est toujours dans la géométrie. D'ailleurs, quand on se place dans une pièce, dans un lieu, on choisit un point particulier. Hein, c'est de la géométrie dans l'espace, là, ça, on va dire. Donc, on joue avec ça, c'est-à-dire la disposition des éléments, et le noir et blanc aussi, puisque Maribou en a parlé. C'est un formidable damier, la photographie. Donc il faut arriver à trouver des rythmes, des équilibres entre le noir, le blanc, le rythme, etc. Et trucs. Bien entendu que c'est la géométrie.
Mais vous qui photographiez dans la rue,
oui,
quasiment toujours, donc oui, à l'improviste, de manière instantanée,
la spontanéité.
Comment vous faites précisément pour obtenir ce rendu, cet effet? Parce que vos photographies, la plupart du temps, sont terriblement bien composées.
Eh oui.
Et on a l'impression que c'est contradictoire avec le caractère,
oui,
spontané.
C'est pour ça que c'est très difficile à faire ce genre de photographie. C'est-à-dire que cette composition, elle existe dans un instant donné. Cet instant donné, il peut être face à l'opérateur, mais si l'opérateur n'est pas à la bonne distance pour saisir cette chose-là, il peut le voir, mais il n'est pas suffisamment près pour que ce soit restitué. Donc c'est la conjonction de tout un tas d'éléments qui permet de garder cette distribution, cette géométrie. J'ai une spécialité qui consiste à conduire des stages photographiques. J'en ai conduit peut-être une quarantaine dans différents pays, etc. Et trucs. Quand j'explique le béaba de la situation de l'homme dans la rue, etc., et truc, par rapport aux éléments qui l'entourent, on peut jouer avec ça de façon formidable, ne serait-ce qu'en déplaçant le point de vue. Et Dieu sait que quand on déplace le point de vue, la composition peut se faire. Mais tout ça, c'est furtif. Et un photographe de rue, c'est un photographe qui fait presque un ballet dans la rue. Il se déplace. On n'est pas dans une situation fixe. On est dans une situation fluctuante, mobile, etc. Et truc. Comme les sujets, d'ailleurs, qui sont furtifs, etc. Et truc. Ce genre de photographie, ce n'est pas de l'affût.
Et alors, mais précisément, quand vous êtes dans la rue, vous vous déplacez, donc presque à chaque pas, vous pourriez déclencher. Qu'est-ce qui fait
que je suis comme les autres, je suis comme tout le monde. Lorsque je suis dans la rue,
comme les autres, sauf que vous voyez des choses que nous, on ne voit pas.
Je suis... D'accord, mais il y a beaucoup de choses que je ne vois pas. Pourquoi ? Parce que je suis comme tout le monde. Je pense à mes soucis un peu. Je suis en train de me dire, tiens, est-ce que tu as suffisamment d'argent dans la poche, etc., pour aller faire cette commission ? Donc, je me mets en retrait, pour ainsi dire. Je ne me mets pas en situation de vision, parce que je suis en train de penser à quelque chose qui m'est propre. Et là, tout d'un coup, je perçois quelque chose, mais c'est trop tard, parce que je n'ai pas un peu anticipé ou je ne me suis pas préparé à la visualisation des choses. Bon, il est sûr qu'il faut être disponible. Il est sûr qu'il faut chasser les miasmes de son quotidien pour être apte à recevoir ces choses-là. Je pense qu'on est comme des récepteurs. On est comme des microphones.
La plaque sensible.
Voilà. On est comme des microphones. Pour recevoir le son, il faut faire silence. Or, si vous pensez, si vous calculez quelque chose, vous ne faites pas silence pour recevoir. Et c'est cette espèce de jeu dans lequel on peut intervenir. Il y a des fois où je ne pense pas du tout à la photographie et je suis surpris par une vision qui est en face. Qu'il y a une vision merveilleuse que je ne peux pas saisir parce que je ne me suis pas un peu préparé en anticipation. C'est un peu comme un joueur de foot, il ne s'est pas préparé à recevoir la balle, quand il la reçoit dans la figure ou je ne sais pas quoi, et il a raté son coup. C'est pareil. Voilà.
Autre aspect de votre photographie, oui, le noir et blanc. Pourquoi résolument...
Ah, le noir et blanc, c'est formidable. Le noir et blanc. Vous avez vu, ou des livres qui sont imprimés, les caractères en bleu ou en rouge ou en vert, etc. Et truc.
Non,
vous avez essayé de les lire un peu?
Non, en effet.
Et voilà, c'est pour ça qu'on n'imprime pas.
On imprime. C'est le côté graphique.
C'est le côté graphique, c'est le côté construction, c'est le côté de la force. Voilà. Ouais. Vous faites une image d'une situation dans la rue, si elle est en couleur, elle va être perturbée par des points couleurs qui vont perturber la construction des choses. Et le plus difficile en photographie couleur, c'est justement de ne pas avoir de couleur. D'avoir quelque chose de relativement monochrome, d'avoir quelque chose de camailleux, plutôt que d'avoir une macédoine de couleurs. Généralement, il y a de la macédoine.
Est-ce que ça veut dire que la photographie couleur donne trop d'informations?
Non, on ne va pas dire ça, parce qu'il y a des photographes qui ont pris ce registre-là. Moi, je pense que c'est comme toute chose. On a un registre... Et on joue avec ce registre. Mon registre, c'est le noir et blanc qui se prête bien à ce type de représentation humaine. D'autres personnes jouent avec le registre de la couleur, mais il faut savoir maîtriser aussi cette couleur, sinon ça bascule dans des salimondis de couleurs, etc. La photographie, c'est comme la musique. Chacun a son instrument et c'est l'ensemble des instruments qui font l'univers de la musique aussi. Donc, il ne s'agit pas de mettre l'un contre l'autre.
Oui, oui.
Voilà. Ça m'arrive de faire des...
Vous avez alors, la carte postale. J'allais vous poser la question.
Voilà,
est-ce que vous photographiez en couleur quelquefois, quand
même ? Bien entendu, ça arrive, oui. Vous avez vu celle-là qui est merveilleuse,
oui.
Le type est en rouge au détriment des autres qui sont pressés en noir et blanc, etc. Et trucs. Voilà, ça accentue le geste qui est inscrit dans la photographie, parce que c'est en couleur. Mais il y a des fois où ça marche, des fois. Mais moi, je suis totalement orienté sur le graphisme du noir et blanc. Voilà. C'est votre... une écriture.
Oui, oui. C'est, oui, oui. C'est ouais. un peu peu comme un idéogramme.
Oui, oui, oui. Ou des ombres chinoises, si vous voulez.
Oui, voilà. Bon. Une référence un peu orientale.
Et on s'aperçoit que l'homme est généralement une silhouette lorsqu'on l'observe dans la rue. Ce n'est pas la couleur qu'on perçoit. C'est la forme.
Alors, précisément,
ouais.
Vous parlez de silhouette. À la fin du livre, alors qu'il y a, que chaque photographie est unique...
Voilà. Il y a une petite séquence.
Ah, voilà. À la fin du livre, on a
une
série. Il y a 4 clichés, je crois.
Voilà.
Même 5.
5.
Voilà.
Ouais. C'est une séquence.
Et alors, vous parlez de silhouette, là, pour le coup, on a
oui.
une silhouette.
Et pourquoi ça a été mis à la fin? Parce que cette séquence, ça représente la fin d'une petite histoire. C'est comme dans les films de Charlie Chaplin. Il s'en va, il est de dos, et il s'éloigne.
En l'occurrence, elle.
Oui, là, c'est elle.
Oui.
Donc, c'est un peu un hommage au film burlesque, si on va par là, où on termine l'histoire. C'est le clap de fin.
Voilà. Alors... Pour que nos auditeurs comprennent de quoi il s'agit quand même, c'est une rue
en perspective.
En perspective, avec une belle composition diagonale, avec une dame de dos.
D'une certaine corpulence.
Et d'un certain âge aussi.
Oui.
Un grand manteau noir qui marche sur le trottoir.
Oui.
Au cours d'une photo, on la voit qui s'appuie, donc on imagine qu'elle s'arrête.
Elle fait le départ.
Et puis elle repart.
Voilà.
Et à la fin, dernière photographie, elle s'éloigne du photographe. Et donc, la perspective s'accentue, d'ailleurs, dans le cadre de la photographie.
Et ce personnage est un personnage culbuto, parce qu'elle marche en s'appuyant sur la jambe droite, en basculant sur le côté droit, le pas suivant sur le côté gauche.
Oui, j'allais vous
et
dire,
on voit ce mouvement.
C'est un
peu comme Charlie Chaplin, quand il s'en va, vous savez, sur la route, c'est pareil.
Ouais. Alors, mais ceci dit, c'est la fin du livre.
Oui.
Et on... Moi, j'ai peut-être une interprétation moins drôle que la vôtre. Oui. On se dit que c'est une fin de vie aussi.
Bien entendu, vu la silhouette de la dame. Oui.
Ouais, ouais. Il y a quelque chose d'un
oui,
peu...
Oui, c'est vrai. Mais c'est la force de la représentation des images où justement, c'est totalement la fin d'une histoire, mais aussi la fin, bien entendu, de l'histoire de cette dame en particulier. Voilà.
Dans la photographie, on a du mal à ne pas imaginer ce qui arrive au personnage. Si ça se trouve, d'ailleurs, ça ne leur arrive pas du tout. On projette quelque chose, toujours.
Oui, bien entendu. Ils sont tellement typés, les personnages qui sont là, qu'on pense qu'ils ont une activité particulière dans la société. Et c'est flagrant sur leur attitude dans la rue, dans leur tenue vestimentaire, etc. et trucs. On peut penser qu'ils sont issus de... Leur caractère est visible, leur fonction dans la société est visible par rapport à leur comportement, leur attitude et leur tenue vestimentaire. Oui.
Mais quand même, la photographie, on a tendance, quand on feuillette le livre, on a tendance à imaginer des choses, à se dire, tiens, d'où vient ce personnage, où il va, qu'est-ce qu'il fait
quoi. Oui, oui. Mais c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. C'est-à-dire, la photographie fige dans un instant, mais cet instant, il est concrétisé par l'histoire du personnage avant qu'il soit saisi. Et le propre de la photographie, une fois que c'est fait, ça se projette dans le futur. Puisque aujourd'hui, on peut regarder des images qui ont été prises hier. Donc, à partir du moment où on fait une photographie qui raconte une histoire, elle se projette de suite dans le futur, puisqu'elle va permettre à d'autres de lire ce qui s'est passé avant. Et c'est ça qui est de formidable. C'est-à-dire que c'est une transition entre passé, présent et futur.
Alors,
l'histoire des personnages, bien entendu.
Tout à fait.
Et ces personnages, chacun d'entre nous, lorsqu'il lit, lorsqu'il regarde ces photographies, s'approprie la représentation des personnages et pense connaître le personnage parce que la nature étant l'homme étant universel, qu'ils soient chinois, japonais, américains, etc., des trucs, l'humanité est entière avec des travers qui sont presque identiques.
Mmh. Ouais. On s'approprie au fond.
Voilà. D'où le fait que ce livre, je n'ai absolument pas voulu mettre de date, de lieu et de pays.
Voilà.
Et à la fin, j'ai mis une petite légende en disant que c'est à vous à vous approprier ces images et à penser que, par contre, j'ai dit que ces images venaient de tous les pays, de Suisse, d'Italie, de Grèce, d'Argentine, du Maroc, etc. Pour qu'on se rende compte que ça, c'est l'universalité de l'humanité.
Oui, oui. D'ailleurs, on a tendance, évidemment...
À chercher, mais on ne trouve pas.
À chercher, mais c'est, voilà. C'est très, oui. Très difficile.
Alors moi, je rigole parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah oui, 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 ça a été pris à l'endroit. »
Non,
ça a été pris
tout.
À des milliers de kilomètres à cet endroit. Mais peu importe. Chacun se les approprie. Voilà.
Alors, il y a une autre caractéristique dans votre manière de photographier, votre approche, que souligne d'ailleurs beaucoup de témoignages, c'est l'humour. Mais pas l'humour, un humour ravageur, un humour destructeur, mais un humour bienveillant, une sorte de regard. Alors, j'ai lu dans une interview, vous disiez, je photographie des paysages humains.
Oui, oui, oui.
Et j'aime les gens.
Oui.
Alors, est-ce que l'humour, ce regard humoristique, vous aide à les aimer plus, à les aimer mieux ?
Disons que c'est certainement ma façon d'aborder le monde aussi, parce que bon, si on est tout le temps en train de se pencher, il n'y a qu'à voir sur les informations. C'est ça, on se fait envahir par les ambiances qu'il peut y avoir sur la communication, sur l'état du monde, etc. Et trucs, on a une tendance à descendre vraiment, hein. Moi, je pense que si on le regarde avec un œil un peu amusé, un peu souriant, etc., et trucs, eh bien, il est beaucoup plus agréable de vivre et de partager. D'ailleurs, on le voit dans la rue, si vous rencontrez des gens, si vous commencez à faire un tout petit peu d'humour, etc., et trucs, ça marche mieux que de se faire la gueule et de raconter des histoires un peu pessimistes, etc., et trucs. Donc, je suis peut-être dans ce registre-là, bien entendu. Ça se voit et c'est évident. Et c'est ça qui fait le sel de la vie. Sinon, c'est un peu fade.
Alors, il y a un de vos témoin dans le livre qui dit de vous, il dit « L'humour lui tient lieu de viser et le sourire de point de vue. Il compose le champ visuel avec une géométrie instinctive. » Bel hommage.
Ah ben oui, il a tout dit là.
Et d'ailleurs, Marc Ribou souligne que la tendresse que vous exprimez à l'égard de ceux que vous photographiez. Alors je me suis posé la question, est-ce que les gens que vous photographiez, vous les rencontrez ?
Rarement, mais ça arrive. Mais ça arrive avec le temps. Donc j'ai des histoires assez formidables qui se passent là.
Et pourquoi rarement ?
Pourquoi ? Parce que ces images-là ne sont pas publiées dans la presse, donc les gens ne les voient pas. Donc ils peuvent les voir au cours d'une exposition, bien entendu, s'ils ont la possibilité de voir cette exposition. Il va se passer certainement à des centaines de kilomètres de lieu où ils résident. Mais si par cas ils ont la possibilité de la voir, il y a un retour qui existe, oui, et c'est toujours enrichissant. Bon, il y a toujours ce problème par rapport à la majorité des gens qui disent « Ouais, mais on n'a pas le droit de photographier dans la rue. » Ben si, moi j'ai le droit de photographier dans la rue. Oui, mais c'est condamnable. Non, c'est pas condamnable. Si c'était condamnable, il y a longtemps que j'aurais été condamné. Ça ne peut être condamné qu'au front symbolique. Ça peut être condamné si c'est péjoratif pour les personnes. Moi, c'est pas du tout péjoratif. Donc, j'ai jamais été condamné. Voilà.
Mais vous avez eu ce genre de difficulté ?
Oui, oui. C'est des gens qui ont un peu le pouvoir. C'est des gens qui se croient au-dessus de la mêlée. Et avec le temps, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait des erreurs. Et des fois, ils viennent me revoir parce qu'ils sont allés peut-être un peu loin. Et puis, ils s'aperçoivent que finalement, ils n'ont pas d'image, mais c'est moi qui les détiens.
Vous dites dans une interview que j'ai lue que le droit à l'image, c'est une sottise.
On va pas dire que c'est une sottise. On va dire que la façon dont c'est mis en avant systématiquement est un peu une bêtise. Ce qui fait qu'on n'aurait pas le droit aujourd'hui de photographier la contemporanéité, c'est-à-dire de photographier ce que nous sommes, exactement. Si on nous empêche de le faire, ce que tendent à dire les médias, mais les médias, ils confondent tout. C'est par rapport au fait que des vedettes attaquent des journaux par rapport à la... Mais ça, ça n'a rien à voir.
C'est événement récent.
Voilà, bon. C'est parce que vous êtes sur un Vespa ou je ne sais pas quoi, que truc. Moi, je suis en moto, on peut me photographier, ça ne portera aucun préjudice à qui que ce soit. Hein. Par contre, ça définira le type de moto ou le type de truc dans quelques années lorsqu'on regardera ces images-là. Donc, finalement, on est des rapporteurs de on est en train de fournir le matériel pour les archéologues du futur. Parce qu'avec les images, on peut analyser, on peut décortiquer ce qu'était une époque, ce qu'était une transformation de l'espace urbain. Parce que l'espace urbain, il se transforme à la vitesse grand V. Mmh.
Ouais. Mais je pense aussi que vous nous aidez à mieux regarder nos contemporains quand même, à ne pas les voir justement qu'à travers certains magazines à scandale et à voir qu'il y a autre chose.
Oui, je pense que la photographie d'auteur, parce que moi j'appartiens à la photographie d'auteur, c'est-à-dire je suis un écrivain qui utilise l'image pour dire des choses. Bon, je pense que si les gens lisent ces choses-là, et si on leur permet de lire ces choses-là, mais ils savent faire la différence. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement envahi par des images à longueur de temps. Ce sont des images qui défilent et qui ne s'arrêtent pas. Or, on a envie que ça s'arrête. On aura envie. Et d'ailleurs, ça s'arrête dans nos mémoires. Oui. Lorsqu'il y a des événements dans le monde, malgré le fait que ça passe dans les médias et que ça défile, c'est une image forte de l'ensemble d'une scène que l'on retient. Souvenez-vous de cette histoire, de cette formidable image de la place Tiananmen où on voyait un char avec un gars qui se mettait devant et le char qui était en train de bouger, etc. C'est cette image-là qu'on a retenue. Mmh. Un gars face à un char. Mmh. Comme on parlait de Marabout. Mmh. Marabout, il y a une image extraordinaire qu'il a faite où c'est une manifestante qui tend une fleur en direction d'une baïonnette d'un soldat de la garde républicaine américaine, qui est devenue une image emblématique. Et tellement emblématique que 40 ans après, Marabout a retrouvé la personne qui était représentée, etc. Donc, c'est ça qui est de formidable. Mmh. Cette photographie, qui justement n'est pas au service de l'information directe, mais qui est au service d'une époque, de la traduction de ce qu'est une époque ou truc, reste par rapport à celles qui sont balayées par rapport à l'information.
אם אלמו אבנלך, בארנון ארחץ רגלך, אם תצמאי לך עדן, בגבי ימי ירדן. עם השחר, עם האור, נעלה אל הר המור. שירך ללוגדי נחמד לחבי מן הגלעד ואם למו אבנלך בארנון ארחץ רגלך אם תצמאי לך עדן בגבי ימי ירדן עם השחר עם האור נעלה להר המור שירך ללוגדי נחמד לחבי מן הגלעד אבנלך בארנון ארחץ רגלך אם תצמאי לך עדן בגבי ימי ירדן.
Voilà, c'est un chant traditionnel de berger de la région de Tel Aviv, donc en Israël. Je sais que
oui.
Roland, vous êtes rendu assez souvent
ouais, j'ai fait un travail sur Jérusalem. Ouais.
Voilà. Ouais. Donc c'était un nouveau petit clin d'œil. Je voulais vous poser une question. Vous n'avez jamais eu envie d'être reporter ?
Ah non, pas du tout. Non, non. Je rapporte plutôt être reporter.
Non, oui, alors, mais... on va retenir la distinction entre reporter et rapporteur.
Moi, je flâne dans les villes. Je déambule dans les villes.
Vous ne vous voyez pas un reporter de guerre ?
Comme un touriste.
Voilà, plutôt.
Voilà. Mais comme un touriste.
Partant de paix.
Qui ne suit pas. Le guide, etc., et truc, mais qui cherche son chemin dans la ville, qui cherche la quintessence même des caractéristiques des villes. Et je m'usarde, je me régale de parcourir. D'ailleurs, quand je suis dans une ville, c'est toujours à pied que ça se passe. Parce que, bon, lorsqu'on me demande quelle est votre démarche photographique, je réponds essentiellement qu'elle est pédestre. Voilà. Mais je veux dire par là que je me déplace en vélo. Et certaines fois, en petit scooter, etc., des trucs, pour aller d'un point à un autre. Parce qu'il faut sentir les choses. Lorsque vous allez sur un lieu, sur une place, il y a un esprit, il y a une atmosphère, il y a une ambiance, il y a des situations de lumière, etc. Il faut y revenir plusieurs fois, parce que ça change énormément, du matin au soir. Ça change par rapport à la lumière, ça change par rapport à l'activité humaine qui est intense à certaines heures et qui est plus diluée à d'autres. Et c'est avec tout ça que je... Donc il faut parcourir la ville, y revenir plusieurs fois. J'ai fait un travail sur Rome, justement, où j'ai voulu revisiter les lieux emblématiques de Rome qui sont tellement représentés que j'ai voulu éviter les représentations habituelles, faire quelque chose de très décalé.
Ce qu'on appelle des clichés, au fond.
Voilà, éviter les clichés et faire des propositions autres. Mais j'y suis arrivé. Mais j'y suis arrivé comment ? En fouinant, allant à des heures très particulières, où finalement, au lieu d'avoir la multitude qui peut être enregistrée, bien entendu, je trouvais la singularité. Et j'ai des images assez étonnantes là-dessus, que vous avez peut-être vues, puisque vous m'avez dit que vous avez vu l'exposition à Aix, où j'avais exposé Rome Panorama. C'était une façon de revisiter cette ville,
tout à fait,
qui est éternelle.
Pourquoi un tel intérêt pour les villes ? Je ne vous connais pas de photographie de paysage.
Non, c'est vrai, mais il m'arrive d'en faire, mais ce n'est pas mon registre. Je pense que c'est comme un musicien, il peut jouer du piano, de temps en temps gratter la guitare, mais il ne vous dira pas qu'il joue de la guitare, etc. Donc, des photographies de paysages, non. Moi, ce qui m'attire, etc., ça ne veut pas dire que je ne fais pas l'humain dans le paysage. J'ai fait un reportage en Bourgogne, dans les vignes. Ce travail a été exposé à Beaubourg. Donc, c'était les gens dans la vigne. Et la vigne, c'est un paysage, bien entendu. C'est une structure, c'est une perspective.
Ah oui, en termes de géométrie, là, il y a de quoi faire, bien sûr. Mais le paysage en tant
mais
que
c'est
tel...
Mais c'est l'homme qui est le point important dans le paysage.
Voilà. C'est toujours ce qui vous...
Oui. J'ai des images assez étonnantes sur la Bourgogne. Par exemple, j'ai une espèce de grand gaillard énorme qui est torse nu. Il ressemble à un homme de Cro-Magnon et il a une énorme masse pour écraser le raisin. On pense qu'il a une massue. Mais c'est le fait qu'il a une corpulence telle qu'on pense à l'homme de Cro-Magnon entre sa morphologie et la massue qui sert à écraser le raisin.
Qu'est-ce que c'est une bonne photo ?
Je ne le sais pas. Donc, je sais qu'elle est bonne une fois que je la visualise dans mon résultat. Parce que c'est tellement furtif que l'on pense l'avoir prise, avoir réalisé la bonne prise de vue. Il faut attendre le résultat pour se rendre compte que oui, l'impact est bon. C'est un peu comme un tireur sur une cible. Il va faire en sorte d'atteindre la cible, d'atteindre le centre de sa cible, mais il ne pourra le voir que dans la mesure où il va vers la cible, où la cible vient vers lui. Et on est pas dans cette situation. C'est ce qu'on recherche. Voilà.
Et ça se présente de manière fortuite ?
Des fois, ça se présente de manière fortuite, mais il y a aussi d'actions qui sont basées sur le fait qu'on a vu une scène, on s'est fait avoir, on n'a pas pu l'enregistrer, mais elle est stockée quelque part dans le disque dur de notre cervelle, ce qui fait que la fois suivante, on réagit presque par un instinct. C'est un peu comme l'instinct du chasseur, l'instinct du joueur de foot aussi, qui instinctivement va taper dans le ballon d'une certaine façon pour marquer le but. Mais ça veut dire qu'il y a un travail d'anticipation, un travail derrière soi qui est important pour avoir cette mécanique, ces réflexes qui sont...
En apparence simple, mais qui ne le sont pas vraiment.
Qui ne sont pas voulus volontairement par la pensée, mais qui sont voulus par une histoire qu'on a accumulée, qui fait qu'on réagit en fonction de l'histoire qu'on s'est faite.
Voilà. Ça fait deux fois que vous faites une métaphore footballistique. Vous avez l'air d'aimer le football.
Disons que pour arriver à comparer ça, vous savez que quand même, on va dire que sur Montpellier, vu les expositions que nous avons présentées à travers Montpellier Photovision, on a quand même fait des exploits. Je ne suis pas particulièrement orienté sur le foot, mais on peut comparer, bien entendu, ces choses-là. Donc, en 98, quand il y a eu le mondial de foot à Montpellier, monter des expositions, comme le voulait le maire de l'époque, Georges Frêche, c'était très difficile, parce que le foot, c'est quoi ? Un type qui tape dans un ballon, il saute à l'air, le goal, il fait un plongeon, etc. Et truc, il s'embrasse parce qu'ils ont marqué un but, etc. Et tout, ça va pas très loin. Vous savez pas qu'est-ce qu'on avait monté comme exposition ? le foot féminin dans le monde.
Je m'en souviens.
C'était assez rigolo. Et la deuxième partie, c'était Pelé, le roi Pelé. Aujourd'hui, on n'a plus des personnages emblématiques comme ça. Pourquoi ? Parce que ces personnages emblématiques, on les consomme à toute vitesse. Pelé, c'est 40 ans de football, c'est le dieu du football, c'est l'image par excellence qui marque l'histoire. Or, aujourd'hui, un joueur de foot, deux ans après, il est balayé, il y en a un autre, etc. Les trucs, il coûte plus cher que l'autre, mais il ne reste pas longtemps dans l'histoire collective des hommes.
Oui, donc, il n'accède pas à l'universalité du personnage.
Parce qu'il y a le monde qui s'est accéléré. Comme ça s'est accéléré en photographie. Aujourd'hui, tout le monde fait du numérique à tout berzin, etc., à toute vitesse, etc. Et trucs. C'est des marées d'images, etc. Et trucs. C'est très bien, d'ailleurs. C'est très bien, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font de la photographie pour le côté utilitaire. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose, vous le photographiez, vous l'expédiez par SMS, etc. Et trucs, à quelqu'un, en disant, tiens, j'ai vu ça, est-ce que tu veux l'acheter ? C'est formidable. Bon, c'est rentré dans ce circuit-là. Mais est-ce que c'est de la photographie ? Je pense qu'on peut dire que ça ne l'est pas. C'est un document qui sert justement à la vie quotidienne, etc. Et trucs. Aujourd'hui, si vous avez un accident, ben vous pouvez de suite faire de la tôle froissée, etc. Et trucs, qui va vous servir justement. C'est devenu très utilitaire et c'est formidable. Mais c'est comme l'écriture. L'écriture, tout le monde écrit. Tout le monde a un stylo. Mais c'est très utilitaire pour marquer une lente, pour se souvenir d'un truc, etc. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes écrivain, parce que vous avez une feuille de papier blanche et un stylo. Mais en photographie, enfin en image, c'est pareil.
Alors, est-ce que le fait d'être passé de la pellicule au numérique, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ?
Moi, je ne suis pas passé au numérique.
Ah !
Je m'amuse avec le numérique.
C'est un scoop, ça.
Oui, j'ai un numérique. Ah oui, mais le numérique sert à m'amuser.
Ouais. Mais on trouve encore de la pellicule noir et blanc ?
Bien entendu qu'on trouve. Et vous savez que c'est comme toute chose. Lorsque les pianos électroniques sont arrivés...
Mais ça n'a pas supprimé le Steinway.
On a dit, ça y est, c'est fini, ça. Mais le piano électrique est formidable, parce que le type, il peut l'emporter sous le bras. Répéter avec un casque dans un lieu pour ne pas gêner qui que ce soit. Mais rien ne vaut la valeur du son, la vibration du son donnée par un instrument comme un Steinway et compagnie. Et c'est pas pour ça que ça disparaît. Par contre, c'est marginal. C'est utilisé par ceux dont la fonction dans la société est de faire la grande musique.
Donc le numérique ne vous a pas... Parce qu'il y a eu des débats quand même, les photographes de presse notamment.
Les photographes de presse, c'est formidable pour eux.
Oui, oui.
Mais c'est ce qui les tue aussi.
Oui, parce que n'importe qui peut envoyer un document.
Et puis de toute façon, c'est tellement furtif ça, etc., qu'ils n'ont pas la possibilité de contrôler quoi que ce soit. Or, avant, ils faisaient des images, ils regardaient ce qu'ils avaient produit, ils sélectionnaient et ils envoyaient que ce qu'ils voulaient bien envoyer. Aujourd'hui, ils produisent et ils envoient. Et c'est à la réception qu'ils sélectionnent.
Voilà. Eh bien, vous me fournissez une transition toute faite.
Pour la prochaine émission.
Au grand angle.
Ah, d'accord.
Grand angle.
Alors, ce grand angle, ça, pour vous présenter une revue. C'est une grosse revue, c'est un livre en fait. C'est le... Alors certains peut-être d'entre vous connaissent la revue 21, donc qui est consacrée au 21e siècle, qui est publiée par l'éditeur Les Arènes. Et donc l'équipe de rédaction de 21 a donc publié une nouvelle revue, petite revue, qui s'appelle 6 mois, enfin petite parce qu'elle vient après l'autre, mais qui donc, comme son nom l'indique, a une parution biannuelle, et qui est donc qui consacre l'essentiel de sa publication à des photographies. Photographies de presse, photographies de guerre, photographies de paix aussi. Et là, en la feuilletant et en lisant certains des textes qui expliquent l'origine de ces photographies, on se dit qu'au fond, la photographie rend compte du monde beaucoup mieux, à certains égards, que certains reportages faits hâtivement et qui ne prennent pas toujours le temps de s'intéresser de près aux populations et aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez, Roland Laboye ?
C'est une revue que je connais, qui est très intéressante, qui n'a pas la prétention de synthétiser tout ce qui se passe dans le monde, bien entendu, etc. Mais c'est une publication qui est basée sur des choix très pertinents, très pointus dans le sens où elle donne vraiment à voir et à percevoir, à travers le fait que l'on donne à voir des situations dans le monde, des phénomènes sociaux. C'est de l'actualité, mais de l'actualité décalée. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu, à travers le fait que j'ai voyagé dans différents pays, que les reporters, lorsqu'ils vont dans un pays, ils ramènent quelque chose, mais ils ne le ramènent qu'en surface. Ils ne le ramènent pas en profondeur. Et je me suis aperçu que ceux qui travaillent vraiment en profondeur, ce sont les photographes qui sont dans le pays, parce qu'ils sont enracinés dans le pays. Ils le perçoivent mieux. Donc, il y a le premier pôle qui est fait par un reporter qui va rapporter justement au cours d'un voyage des images pour mettre dans la presse. Mais la deuxième étape, qui est beaucoup, certainement beaucoup plus importante par rapport à l'histoire, c'est ce qui est produit par des gens qui s'immergent totalement dans le temps et dans l'espace pour ramener des histoires humaines, des histoires de sociétales, avec la photographie et accompagné de quelques textes, bien entendu, ce qui fait la force de cette revue.
Ouais, c'est le cas, voilà. Ce sont des gens qui restent longtemps...
Qui s'immergent, on ne peut découvrir les choses, c'est comme moi, que lorsque je vais dans une ville, je ne photographie pas la ville en trois jours. Lorsque j'ai photographié Rome, j'y suis allé pendant quatre ans, pendant quatre ans, avec des périodes pour percevoir, pour analyser, pour vraiment... goûter cette ville, qu'elle passe par les pores de la peau, etc. Parce que ça ne passe pas que par les yeux. Ça passe par le côté sensible.
D'ailleurs, il y a un photographe qui publie dans le numéro d'hiver, donc 2014, qui dit « Photographier, ce n'est pas regarder, c'est ressentir ».
Oui, bien entendu.
C'est donc la clé, la clé de cette revue, de son projet, dont le slogan est l'information à long terme et pas l'information immédiate.
Écoutez, c'est simple. Vous parliez de la comparaison que je fais systématiquement avec les footballeurs. Mais bon, ressentir, percevoir, etc. Vous imaginez un type qui va à la pêche, qui met la canne à pêche n'importe où ? Non. Avant de mettre la canne à pêche, il cherche, il fouine, etc. Calcul, etc. Il essaye de percevoir le milieu vers lequel il va pour s'apercevoir que peut-être c'est là et à travers son expérience, il sait où il faut qu'il pose la canne à pêche. Mais c'est pas pour ça qu'il va rattraper du poisson. Parce que ça dépend du jour, ça dépend de la lune, ça dépend des eaux, etc. Et c'est en jouant avec tout ça qu'il va être vraiment un pêcheur. Et on dira, attention, ce gars-là, c'est vraiment un pêcheur, il ramène du poisson. Mais il en ramène rarement, mais quand il en ramène, c'est la joie. Donc là, on est un peu des pêcheurs aussi.
Alors avant de passer à la revue de presse, je vais vous faire lire une citation qui est un petit peu rigolote. Et c'est une citation de Ronald Reagan. Alors à propos des photographes, voilà ce qu'il dit. « J'aime les photographes parce qu'au moins eux, ils ne posent pas de questions.
» Gulliver, la revue de presse.
Je n'ai jamais débattu avec Nancy.
Parfois l'angoisse plaque ses robes de bure entre deux mains et toi. Monsieur Alain adore ça.
Donc, revue de presse un petit peu écourtée, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voulais simplement signaler que dans un numéro récent du Monde, Pierre Rosanvallon, qui est professeur au Collège de France, lance une initiative qui m'a paru intéressante. Ça s'appelle « Raconter la vie ». Et il se propose de retisser du lien social par le partage d'expériences. Et c'est donc une démarche qui s'appelle « Histoire de France ». Et donc, il y a un site qui a été créé... Et c'est une tentative de faire parler des gens simples, des invisibles, comme il les appelle. Voilà, c'est une tentative de créer ce qu'il nomme le roman vrai de la société, raconter la vie. C'est je n'ai pas le site, donc je ne peux pas, mais je pense sur Internet, en mettant Rosanvallon, Histoire de France, on doit pouvoir retrouver des références. Alors, je voudrais vous signaler la fin d'une exposition photographique. Alors, à Nîmes, c'est l'exposition Stan Douglas, qui est un artiste qui utilise énormément la photographie qui, à partir d'elle, reconstitue même des événements passés. C'est une très, très belle exposition. Alors, tout à l'heure, Roland Laboy, vous disiez que ce sont les gens, les photographes qui restent longtemps, qui sont les plus intéressants. Eh bien, sachez que donc, à Carré d'Art, après Stan Douglas, il y aura une exposition qui s'appelle « Chorégraphie suspendue » du 21 février au 27 avril. Et cette exposition présentera 8 artistes contemporains vietnamiens qui montrent l'état de la société moderne vietnamienne, là où elle en est et comment elle évolue de l'intérieur. C'est donc probablement une exposition qui va être extrêmement intéressante. Alors je vais vous signaler encore une ou deux autres expositions, si j'arrive à me dépêtrer de mes documents. Voilà. C'est notamment à Montpellier, donc on annonce au pavillon populaire donc une exposition de l'épouse de Paul McCartney, Linda McCartney, qui est donc décédée en 1997. Ce sont des 200 tirages en noir et blanc et couleur. Évidemment, beaucoup de photographies musicales prises dans l'entourage des Beatles. Donc l'exposition aura lieu du 21 février au 4 mai. Également, mais c'est pour plus loin, eh bien, signaler que les boutographies auront lieu du 17 mai au 16 juin 2014 à Montpellier. Voilà, et pour finir, je vous donne quelques nouvelles des rencontres qui se déroulent à la librairie Sorams. Les toutes prochaines, il y a donc à signaler le 6 février, c'est-à-dire aujourd'hui même, Pierre Assouline qui sera présent à la librairie pour son dernier ouvrage sur Sigmaringen, le fameux château où a résidé notamment Louis-Ferdinand Céline. Également le 10 février, lundi prochain, Jean Lesselbaum et Antoine Spire présentent un dictionnaire du judaïsme français depuis 1944. Et puis je voudrais surtout signaler la présence de Roland Gori. Roland Gori, c'est un psychanalyste marseillais qui se signale par des points de vue un petit peu décalés. Et là, son dernier livre s'appelle « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?» Et ce sera le 13 février, jeudi prochain. Enfin, pour terminer cette petite sélection, Michel Maffesoli, qu'on connaît parce qu'il passe souvent à la télévision, c'est un sociologue à la mode, on pourrait dire, mais qui là sort un livre qui interroge, puisque ça s'appelle « Les nouveaux bien-pensants ». Et donc, on a l'habitude de cet homme qui dénonce souvent, à travers des polémiques, des attitudes intellectuelles contestables. Voilà, ça c'est le 17 février à 18h30, ce sera à la salle Pétrarque. Gageons qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà, il me reste à remercier Roland Laboy de sa visite. C'était un bon moment passé à évoquer donc le sirop de la rue. Roland Laboy, photographe, c'est au bec en l'air. Et c'est publié, et on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, bien entendu. Merci.
Merci à vous.
À la semaine prochaine, cette émission a été animée par Alain Vaquier, réalisée par Gilles Gouget. Vous pouvez retrouver l'enregistrement de l'émission sur le site de Divergence.
De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française.
Les incidents avec les chiens se multipliaient. Un autre jour, par exemple, on tomba sur un corps de pachyderme qui reposait là depuis va savoir quand.
Cette autre femme au visage doux, enfantin, aux yeux humides et profonds, au front haut et pur, cette femme vivante, dois-je la laisser dans son monde ?
Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps.
Île où l'on ne descendra jamais. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.